Bonsoir. Contentieux électoraux, la Cour suprême de justice rejette pour dépôt tardif la plainte de l'UDPS contre la CENI, accusée d'avoir accepté et publié les listes des candidats à la députation nationale de certains partis politiques ayant aligné plus de candidats que de sièges requis en violation de la loi électorale. Comment analyser la décision de la Cour suprême de justice? Quelles pourraient en être les conséquences sur le processus électoral? Nos invités dans cette émission sont Maître Kabenyela Ilunga, un des avocats de l'UDPS dans le dossier l'opposant à la CENI. Maître Kabenyela, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Maître Godard Ekofo, membre du collectif des avocats du PPRD. Maître Ekofo, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. Kairi Matembera de Kalimio Katanga, l'UDPS est un grand parti qui a plusieurs juristes. Je pense qu'il doit accepter la décision de la Cour suprême de justice. François Chibangu de Lumbashi au Katanga, de par seulement la composition de la Cour suprême de justice, l'UDPS a accusé le Lyonceau auprès de la Lyonne. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La Cour suprême de justice juge irrécevable la requête de l'UDPS contre la CENI pour raison de tardivité. D'après le greffe civil de cette cour, l'UDPS a déposé sa plainte un jour après la date limite du dépôt des recours. Cet arrêt de la cour a été rendu public la nuit dernière. En effet, dans une plainte introduite dans cette juridiction, l'UDPS accusait certains partis politiques d'aligner plus de candidats que de sièges dans certaines circonscriptions électorales, contrairement à une disposition de la loi électorale. En réaction, l'UDPS affirme que le dossier a été maltraité à la Cour suprême de justice et en appelle à une mise en place urgente de la Cour constitutionnelle. Un de ses avocats, Maître Richard Bondo, l'a dit à Mimi Ngumba Mulongo.
La loi électorale dit que la requête en contestation des listes électorales est déposée dans les 4 jours après la publication des listes provisoires par la CENI. Les listes ont été publiées le 22, dans les 4 jours qui suivent, mais parce que les 4 jours sont ce qu'on appelle en droit les délais préfixes. Les délais préfixes sont des délais francs, c'est-à-dire le premier jour et le dernier jour ne sont pas comptés. Les vrais 4 jours sont le 24, le 25, le 26 et le 27. Or, dans le dossier judiciaire devant la Cour suprême de justice, le greffe a réceptionné la requête de l'UDPS le 27. Voilà pourquoi je dis, il faut impérativement que et l'opposition et la majorité se mettent ensemble pour convaincre le président de la République de l'opportunité impérative à mettre en place la Cour constitutionnelle en bonne et due forme.
Le PPRD, un des partis accusés, pense que la Cour n'a fait que dire le droit et ne peut aller au-delà de la loi. Le plus important, affirme l'un de ses avocats, l'un des avocats de ce parti, c'est le fait que la CENI ait reconnu les erreurs dans les listes provisoires. En attendant donc la correction, Maître Lunda appelle les acteurs politiques à préparer leur campagne électorale. Du côté de la CENI organisatrice des élections, la réponse est bien claire. Les listes publiées sont provisoires. C'est en ces termes que le rapporteur de la CENI avait réagi lors d'un entretien d'il y a quelques jours à Mimi Ngumba Mulongo.
Les listes des candidats sont encore des listes provisoires susceptibles de contenir des erreurs d'omission, erreurs techniques, erreurs de saisie. Il y a un travail de fond qui s'est fait, des concerts avec les candidats, les partis politiques. Donc on reçoit tout le monde au niveau de notre bureau de réception des traitements des candidatures et le travail des corrections qui s'est fait. Et cela s'est fait à la satisfaction de tous les candidats qui passent par là.
Voilà, juste rappeler à l'intention des invités qui sont tous des juristes que nous allons utiliser au cours de cette émission des termes assez simples pour permettre aux auditeurs qui nous suivent de mieux appréhender la question. Maître Kabenyela Ilunga, vous êtes un membre du collectif des avocats de l'UDPS dans le dossier l'opposant à la CENI. L'article 25 de la loi électorale dit, un extrait, dans un délai, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie provisoirement les listes des candidats à la date fixée par elle dans un délai de 4 jours. suivant la publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être contestées devant la juridiction compétente. L'UDPS a-t-il, le parti a-t-il respecté le délai?
Oui, l'UDPS a respecté ce délai parce que la première question que le juge devrait se poser, c'est de savoir quand commence le compte de délai de publication. Quel est le support qui a été mis à la disposition de la Cour suprême de justice, lequel support lui aurait servi de computation de délai? Sur cette question, la Cour suprême de justice est restée muette. Mais quant à l'IDPS, elle a tenu pour délai de départ le 23, qui ne devrait pas compter. Alors vous avez le 24, le 25, le 26, le 27, nous sommes au quatrième jour.
Je m'excuse, le 25, ça tombe un dimanche et la Cour ne travaille pas ce jour-là.
Non, le jour férié ne compte pas dans la computation de délai lorsque c'est le dernier jour. Mais lorsque un jour férié est au milieu, il est compté. Donc, sur le plan juridique,
c'est
le dimanche compte parce qu'il n'est pas le point, le dernier jour de l'acte utile.
Donc, l'UDPS a respecté les délais pour vous.
L'UDPS a respecté le délai en ce qu'il n'y a aucun support juridique qui puisse permettre que tel jour est le jour de publication. Nous avons posé la question à la Cour suprême de justice pour nous dire si le fait pour la CENI de mettre les données sur le support informatique, l'Internet, cela vaut publication. Or, publication veut dire mettre à la disposition du public, rendre des données accessibles au public. Ce qui n'est pas le cas pour le peuple congolais.
Alors la plainte ou la requête était contre la CENI, mais on n'a pas vu la CENI au procès. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle réponse vous a été réservée à ce sujet?
Oui, la juridiction saisie la Cour suprême de justice pensait que la CENI pouvait valablement être représentée par des experts. Et ceci n'était même pas mandaté par le président de la Commission électorale nationale indépendante, contrairement à ce que prévoit l'article 26 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et donc, la CENI était absente de la barre et n'a pas été représentée parce que, au sens de la loi, aucun expert ne peut représenter une partie au procès. Et un expert ne peut être invité que pour besoin de l'instruction. Or, il n'a jamais eu une décision avant du droit par laquelle la Cour suprême de justice avait besoin d'un expert. Et l'expert ne prend pas parti pour une partie au procès.
Alors, et dans ce cas-là, la CENI qui ne se présente pas, en principe, qu'est-ce qui devrait se passer?
En principe, on devrait juger la CENI par défaut, mais au moyen d'une décision réputée contradictoire, étant entendu que, en matière électorale, il n'y a pas de décision par défaut.
Prenons cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga pour vous, Maître Kabenyel.
Yves Mbouli, je réside à Lubumbashi. L'UDPS dit lutter pour l'instauration d'un état de droit. C'est-à-dire qu'elle doit être la première élève dans le respect des lois et ne pas respecter le droit imparti au dépôt du dossier est anticonstitutionnel. Donc l'UDPS n'a pas respecté les lois qui régissent le fonctionnement de la CENI sur le contentieux. Le mal, c'est que l'UDPS ne verra pas son erreur, mais dira que la Cour suprême de justice a été influencée.
Réaction, maître.
La CENI, la Cour suprême a été influencée, bon. Par quelle partie au procès? Je pense que c'est par la partie qui a aligné plus de candidats qui a de sièges à pourvoir. C'est ça toute la lutte. Nous avons fait voir à la Cour suprême de justice qu'au vu de l'exposé des motifs de la loi électorale, il revient à la juridiction saisie de pouvoir s'assurer de la régularité et de la sincérité de l'organisation du processus électoral. Et ça, la Cour suprême de justice n'a pas tenu compte de ça. Nous sommes maintenant arrivés au point où il y a un arrêt qui doit être exécuté, mais l'exécution de cette décision a des conséquences très néfastes par rapport au processus électoral. On va voir des partis qui vont avoir beaucoup de candidats par rapport au nombre de sièges. Alors, la loi est claire, de telles listes, il n'y a pas d'autre sanction sinon la sanction d'irrecevabilité. Ce sont des listes présumées inexistantes sur le cours normal du processus électoral.
Alors, puisque la Cour a rejeté la requête de l'UDPS, vous parlez des partis qui ont plus de sièges plus de candidats que des sièges. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le dossier revient à la CENI? Ou la CENI va publier tel quel?
En principe, la CENI n'a plus de chance de revenir sur leur décision. J'ai suivi le rapporteur qui dit que les listes sont provisoires et pouvant contenir des erreurs corrigibles. Or, dans le sens de la loi, l'article 22, une liste qui contient ou qui présente plus de candidats qui a des sièges à pourvoir doit être déclarée irrécevable. Il n'y a pas d'autre décision. Donc, c'est déclaré, ces listes-là, irrécevables. Il n'y a pas de correction à faire.
D'autres analystes pensent qu'en fait que c'est la CENI qui devrait être en principe le premier tamis qui devrait déjà résoudre ce problème à la base au lieu de laisser que ça atteigne le niveau de la Cour suprême. Quel est votre avis?
Oui, ceux qui pensent comme cela ont raison. Parce que vous trouverez que le surnombre, c'est sur beaucoup de circonscriptions électorales. Ça vient des centres de bureau de traitement de candidatures et ça arrive même au niveau du bureau de la CENI et l'on fait passer. Ça, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est préparé parce qu'on ne peut pas comprendre que ce soit plus pour les partis au pouvoir et ces erreurs-là s'il y a erreur. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'erreur sur les partis, notamment sur l'UDPS?
Oui, en parlant de l'UDPS, dans la circonscription des Moba, j'ai vérifié sur le site de la CENI, il y a 6 noms alors qu'il n'y a que 4 sièges. Donc, l'UDPS aussi devrait, en principe, cette liste devrait être déclassée.
L'UDPS a le courage d'accepter que l'autre camp ait le courage d'accepter. L'UDPS, pour ce cas-là, accepte que la liste soit déclarée irrécevable et que le camp de PPRD avec la Cour suprême de justice et la CENI accepte le même sort.
Maître Godard et Kofo, vous êtes membre du collectif des avocats du PPRD. La requête de l'UDPS était contre la CENI, mais qu'est-ce que le PPRD est venu faire dans ce procès?
Le PPRD a fait acter son intervention volontaire pour éviter que les effets de l'arrêt qui était attendu ne puissent préjudicier ses intérêts. C'est pourquoi elle a fait acter sa comparution son intervention volontaire et donc a déjà pris part au procès comme partie prenante.
Donc le PPRD, en d'autres termes, avait déjà des choses à se reprocher.
Non, il n'y avait pas de reproche possible à faire et même le PPRD n'avait pas de reproche à se faire lui-même, d'autant plus que a priori, elle était censée ignorer le contenu de la requête de l'UDPS. Mais néanmoins, elle se devait de prendre part au procès pour, n'est-ce pas, présenter ses moyens de défense dans la mesure où, naturellement, le grief que comportait la requête de l'UDPS pouvait d'une façon ou d'une autre porter à tête à ses intérêts.
Certains analystes, en voyant cela, accusent le PPRD de complicité avec la CENI. Qu'est-ce que vous y répondez?
D'abord, il n'y a pas de complicité possible parce que l'intervention volontaire est un mécanisme, c'est une procédure que la loi procédurale congolaise organise. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a fait seulement pour ce procès ou que c'est une invention du PPRD.
Ça, c'est la première. Donc, la procédure est légale.
La procédure est donc légale. Il y a eu d'autres circonstances où d'autres personnes ont pu bénéficier des effets de cette procédure. Alors, parler aujourd'hui de la connivence entre le PPRD et
la CENI,
c'est une opinion. Mais une mauvaise opinion, il faut le souligner. Parce que justement, la CENI, c'est l'église au milieu du village. Et là pour tout le monde. Et donc, en aucun moment, on peut aujourd'hui soutenir une connivence quelconque entre le PPRD et la CENI.
Mais il y a un adage qui dit qui se sent morveux se mouche.
C'est un adage qui ne peut pas être appliqué dans le cas d'espèce parce que le PPRD ne pouvait pas ne pas participer à ce procès, de sorte que les effets, n'est-ce pas, risqués. Parce que imaginez-vous que le PPRD n'est pas comparu en son procès et que l'UDPS ait présenté ses arguments en face de la CENI, que d'ailleurs l'UDPS ne voulait pas voir devant la barre, vous pouvez imaginer ce qui pouvait arriver. Et donc, l'intervention volontaire du PPRD a permis justement de rééquilibrer les choses pour que le droit soit dit de façon égalitaire et contradictoire.
Donc, en d'autres termes, le PPRD était conscient des erreurs commises sur ces listes.
Conscient ou pas, mais en tout cas, ce sont des erreurs, comme vous le soulignez. Mais il faut d'abord reconnaître que les listes telles que publiées sont des listes provisoires, n'est-ce pas? Et que avant qu'elles ne soient publiées, de façon provisoire donc, ces listes telles que déposées par les partis font l'objet d'un examen sérieux de la part de la CI. Il y a ce qu'on appelle à l'interne au niveau de la CENI, examen de conformité. À ce stade-là, les listes sont déposées, examinées, réexaminées, et même de façon contradictoire entre la CENI et un mandataire de chaque parti. Ça ne concerne pas le PPRD, c'est pour tous les partis. De sorte qu'au bout de cette procédure, il y a ce qu'on appelle le récépissé, n'est-ce pas? Le récépissé qui en fait constitue la déclaration des candidatures de chaque parti. Et donc ces listes-là sont des listes examinées, accréditées et agréées par la CENI, et ce sont des listes-là qui devaient en fait être publiées. Mais si par après des coquilles simples se sont glissées dans les listes telles que publiées, ben ce sont des coquilles qu'on peut enlever à tout moment.
Alors, l'UDPS pense, le parti, qu'il était dans le délai, et quel est votre avis à ce sujet?
Je crois qu'à ce sujet, la Cour a déjà tranché et a considéré que le dépôt de la requête de l'UDPS s'est fait de façon tardive. Nous avons soutenu cela devant la barre, et nous continuons à considérer que la démarche de l'UDPS était donc empreinte de retard. Donc il y a eu irrégularité dans le dépôt, dans la mesure où les listes publiées le 22, parce que c'est les pièces qui étaient examinées par la Cour, ce sont des pièces produites par l'UDPS elle-même. Et ces pièces mentionnaient clairement que ces listes ont été publiées le 22, au plus tard. Et lorsqu'on fait la computation des délais, n'est-ce pas, on se rend compte clairement que les délais étaient dépassés.
Alors à partir de quel moment faudrait-il compter les 4 jours dont parle la loi électorale dans son article 25?
Les 4 jours sont comptés à partir du premier jour ouvrable qui suit la publication des listes provisoires. C'est la loi qui le dit.
Alors si les listes ont été publiées le 22, c'est-à-dire on devrait commencer à compter à partir de quel jour?
Du 23. Du 23 jusqu'au 27, ça veut clairement que les 4 jours légaux ont été dépassés. Parce que d'ailleurs, la loi parle de délai simplement. On peut aujourd'hui évoquer les différentes sortes de délais francs, délais non francs. D'ailleurs, il y a plusieurs sortes de délais, non francs, délais préfixes, etc. Oui. La loi ne parle pas de délais francs ou quoi que ce soit. La loi parle de délais. Et donc, il n'est permis à personne, fût-elle du DPS, de qualifier ce délai des francs ou des préfixes, parce que la loi parle de délai tout court.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Professeur, vous avez certes compris, il y a déjà un problème au niveau de l'interprétation quant au délai. Quelle est votre analyse?
Bon, je vous remercie, cher ami, de m'avoir associé à ce débat. C'est très difficile de prendre part à un débat lorsqu'on n'a pas l'arrêt devant soi. Mais je vous fais confiance. Vous avez fait le résumé de cet arrêt. Je voulais simplement dire que de façon générale, la jurisprudence de la Cour suprême de justice en matière électorale ou de façon générale en matière constitutionnelle est vraiment calamiteuse. Je le dis parce que depuis qu'elle siège comme Cour constitutionnelle, vous remarquerez que, puisque j'ai fait une étude à ce sujet, la Cour a adopté un certain nombre de tactiques. Lorsqu'elle se trouve, par exemple, devant des sujets, des procès à forte connotation politique, généralement, la Cour adopte une attitude, une tactique d'évitement. Elle n'entre pas dans le fond du débat et se limite dans des questions de procédure, la recevabilité, la compétence, etc. On dirait que c'est de bonne guerre pour éviter que la Cour ne se mêle à des débats politiques, mais c'est au détriment de la légalité constitutionnelle. Ça, c'est la première remarque de façon générale. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la Cour suprême de justice actuelle
du point de vue de la gestion du contentieux électoral ou du contentieux constitutionnel tout court, n'est pas vraiment la meilleure solution qui se présente actuellement au pays. Alors, en ce qui concerne le cas sous espèce, vous dites que, d'après d'ailleurs ce que Maître Kabengel et Maître Ekofo l'ont dit, que je salue d'ailleurs en passant, que la requête a été introduite le 27, alors que la publication des listes provisoires par la CENI est intervenue le 22. Alors, si on interprète correctement l'article 25 de la loi électorale, qui donne 4 jours aux requérants à dater, donc suivant le jour de la publication des listes provisoires, la computation des délais commence en fait le 23. Parce que dans tous les délais, qu'il s'agisse des délais francs ou des délais non francs, le premier jour ne compte pas. Le premier jour, c'est le jour de l'acte, c'est-à-dire le jour, ce qu'on appelle d'ailleurs le dies à court, c'est-à-dire le point de départ du délai, qui est le 22, ne compte pas. Et d'ailleurs, la loi électorale actuelle, elle-même le précise, que c'est le premier jour ouvrable après le jour de la publication des résultats qui compte. Et donc, si il faut interpréter rigoureusement l'article 25, on peut dire que la Cour a bien dû le droit, parce que dans ce cas-là, le délai commence à courir le 23, le 24, le 25 et le 26. Et comme le délai de l'article 25 n'est pas qualifié de franc, parce que pour que le délai soit qualifié de franc, il faut que la loi ou qu'un texte le dise expressément, donc ça s'arrête au 26, à minuit. La requête aurait dû donc être logiquement être introduite au plus tard le 26 à minuit, et quand on arrive le 27, on est forclos. Tout simplement parce que le délai de l'article 25 n'est pas un délai franc. S'il était franc, alors on irait jusqu'au lendemain du dies ad quem, c'est-à-dire du point d'arrivée. Alors en ce moment-là, on pouvait recevoir la requête de l'UDPS au 27. Comme la loi électorale ne le dit pas clairement, il ne s'agit pas d'un délai franc, parce que le délai franc doit être expressément dit. De ce point de vue-là, on peut dire que la Cour a bien interprété l'article 25. Mais le problème, à mon avis, ce n'est pas au niveau de la procédure. Encore une fois, la Cour ici a arrêté les débats à ce niveau-là, alors que la question principale, c'est celle du respect de l'article 22 de la loi électorale. Aucune liste ne peut être présentée avec un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. C'est ce que la loi électorale dit. Alors, en ce moment-là, la Cour suprême qui a le pouvoir de publier la liste définitive, comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour des cas qui se présentent comme ça? Puisqu'il faut éviter, en effet, qu'il y ait des candidats, le nombre de candidats supérieur au nombre de sièges. Qu'est-ce qui va arriver dans l'attribution des sièges? Supposons que une telle liste passe et que les 5 candidats sur 4 puissent être effectivement là dans l'attribution des sièges. Comment est-ce qu'on va attribuer les sièges? Le cinquième siège, il va être attribué à qui? Donc il y a un problème de fond que la Cour suprême devra régler de toute manière, indépendamment de cette question de procédure.
Professeur, que va-t-il maintenant, un peu pour enchérir par rapport à votre dernière assertion, que va-t-il maintenant se passer, parce que la requête n'a pas été reçue, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la CENI? Est-ce qu'elle va publier les listes telles quelles? Est-ce qu'elle va les modifier, parce que le rapporteur dit que les listes sont encore provisoires et corrigibles?
Oui, la Cour suprême a le pouvoir de publier les listes définitives. Je m'imagine que la Cour, sur la base du travail transmis par la Commission électorale nationale indépendante, va pouvoir arrêter les listes définitives des candidats. Et si elle ne le fait pas, et si c'est la Commission électorale nationale qui doit le faire, la Commission électorale doit se rattraper. Parce que dans le cas d'espèce, la Cour n'a pas statué sur le fond. La Cour a statué sur une question de procédure, un point. Or, la Commission électorale nationale indépendante doit garantir la régularité et la transparence du scrutin. Et de ce point de vue-là, l'article 22 de la loi doit être respecté. Les listes qui présentent le nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pouvoir doivent être déclarées irrecevables et ne pas pouvoir être publiées définitivement. Donc la CENI a toujours l'occasion de se rattraper. Heureusement que son rapporteur dit que c'est encore des listes provisoires et qu'il y aurait des erreurs matérielles, des choses comme ça, souhaitant que vraiment cette fois-ci on puisse se rattraper et que l'on publie les listes qui soient conformes, entre autres, à l'article 22 de la loi électorale.
Alors, professeur, en revenant au problème de forme, vous avez dit que par rapport à l'article 25, la Cour a bien interprété cet article, c'est que l'UDPS n'a pas respecté le délai d'après vous.
En effet. Si l'UDPS avait déposer la requête le 26, à mon avis, la Cour aurait dû la déclarer recevable et examiner la question quant au fond. J'ai entendu tout à l'heure Maître Kabengele dire que la Cour n'a pas présenté les supports sur lesquels il s'est basé pour faire le calcul des délais. Ben, je suppose que c'est l'île des Perses qui a introduit le recours qui aurait dû déjà présenter ce support-là. À savoir, par exemple, les listes affichées au niveau de la commission électorale indépendante ou les listes tirées sur Internet, parce que la loi ne précise pas les modes de publication des listes. C'est la commission électorale nationale qui détermine de façon souveraine les modes de publication. Or, pour l'instant, ces modes de publication, c'est soit l'affichage, soit la publication sur Internet. Et donc, de ce point de vue-là, je ne comprends pas un peu la question que Maître Kabengele a soulevée, parce que c'est elle-même qui a posé le problème. Et même l'UDPS, quand elle a fait la computation des délais, je suppose qu'elle est partie d'un support pour avoir le point de départ du délai. Donc, de mon point de vue, si vous interprétez rigoureusement l'article 25 de la loi électorale, la Cour a bien dit le droit de ce point de vue.
Merci, professeur. Maître Kabengele, vous avez suivi le professeur Ngondo encore, et quelle est votre réaction?
Je l'ai suivi, je l'ai salué en passant. Je dis, en droit, le point de départ doit être cristallisé par un événement quelconque. Lorsque l'UDPS va en procès, donc même sans instrumentum, comme en droit procédural, un individu, une partie au procès, peut aller en recours, même si la décision ne lui a pas été notifiée. Ici, l'UDPS se croit, en droit, par rapport à la procédure, être dans le délai de faire sa contestation. C'est à la Cour suprême de justice qui raisonne par rapport à la computation de délai de fixer l'UDPS par rapport à ce qu'il a considéré comme étant le point de départ de computation de délai. C'est ça la question technique que nous pouvons nous poser. Le fait pour la CENI de déposer les données relatives à la publication des listes provisoires, ce dépôt-là vaut-il publication? Est-ce au moment où la CENI procédait à ce devoir, à cette gymnastique, l'opinion était informée? C'est là toute la question. Alors, quand le juge maintenant raisonne par rapport à la tardivité, il doit défixer les parties que voici ce que je considère comme point de départ. Étant entendu que l'affichage, s'il y a affichage, on doit signaler le jour où cela est affiché. Or, la Cour suprême de justice s'est référée à la date qui est mentionnée sur les listes, donc la date de l'insertion des données à l'Internet.
Donc, alors, Maître le PPRD s'est invité par une procédure légale à ce procès. Comment vous avez accueilli cette participation?
Bon, c'était de bon droit. Le PPRD avait droit de faire son intervention volontaire dans le procès parce que ses intérêts étaient visés. Mais alors, venir pour soutenir et se reprocher parce que il devait soutenir ses candidatures, soutenir l'acte par lui posé en complicité avec les agents de la CENI. Bon, parce qu'ils ont parlé le même langage devant le juge. Donc il faut maintenir les noms. Aujourd'hui, on nous parle de la correction. Il n'y a pas de correction possible. S'il y a correction, c'est-à-dire la CENI doit respecter l'article 22, comme venait de le dire également le professeur, c'est de déclarer toutes ces listes-là irrécevables. Et ça sera le bon droit.
Alors, vous aviez dit avant, il y a quelque temps, que toute cette situation avait des conséquences néfastes sur le processus électoral. Quelles pourraient être ces conséquences?
La première conséquence, c'est que le PPRD va avoir beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup de voix par rapport à ces listes que d'autres partis qui sont respectueux de la loi. Deuxième conséquence, c'est que lorsqu'il y aura le résultat des élections, le résultat là sera entaché déjà d'irrégularité par rapport au surnombre de candidats par rapport au siège à pourvoir. Et comme le professeur venait de le rappeler, la Cour suprême de justice souvent Nous l'avons vu même en 2006. Lorsqu'il s'agissait des questions concernant le pouvoir en place, la Cour suprême se limite aux questions de forme. Hors des questions de forme, tout juge peut les inventer et rejeter une demande. C'est la crainte des gens de l'opposition, c'est que maintenant que la Cour suprême se limite au niveau de forme, alors que l'exposé des motifs de la loi électorale impose à la Cour suprême de justice la mission de vérifier la régularité et la sincérité de l'élection. La Cour suprême de justice passe sous silence des questions et nous pensons qu'au moment des résultats, il y a crainte. C'est pourquoi ceux de l'opposition appellent de tous leurs voeux l'institution de la Cour constitutionnelle et qu'on puisse avoir une juridiction qui soit véritablement indépendante par rapport au pouvoir en place.
Maître Godard et Kofo, vous réagissez juste après cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous.
Chef de travaux Jean-Bernard Mideko, Mbandaka provient de l'Équateur. Les partis politiques qui ont aligné plus de candidats que le nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription ont violé l'alinéa 2 de l'article 22 de la loi électorale. La CENI devait déjà, à son niveau, rejeter toutes les listes qui transgressent la loi électorale. Malheureusement, cela n'a pas été fait. C'est une fuite de responsabilité. Si aujourd'hui la Cour suprême de justice est débordée, la CENI est en partie responsable pour n'avoir pas fait son travail comme il faut.
Réaction maître Godaré Kofo.
Je crois qu'à ce niveau, on doit considérer que les listes sont encore provisoires. Et que dans cette caractère provisoire, il y a toute une philosophie qui doit se développer là-dessus. Par rapport à ce que dit l'intervenant, le monsieur le chef des travaux, je crois que l'article 22 alinéa 2 de la loi organique de la CENI est clair quant à la nature même de la sanction à apporter par rapport aux listes qui rentrent dans le cas de figure. Mais je dois tout de suite dire que l'irrécevabilité auquel fait allusion la loi, c'est une irrécevabilité purement administrative. Et d'ailleurs, le chef de travaux l'a souligné en disant que la CENI aurait dû normalement rejeter des listes.
Donc la CENI a d'une part péché.
La CENI n'a pas péché parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la CENI a mis en place des mécanismes de contrôle rigoureux de ces lois avant leur publication. Et là-dessus, je crois que il faut rechercher la philosophie profonde du législateur. Je crois que le législateur a voulu, dans son volonté intrinsèque, permettre à tout le monde, à tous les opérateurs politiques, de participer à même pas d'égalité aux élections. De sorte que les listes provisoires, n'est-ce pas, doivent subir préalablement un examen de conformité. Vous vous rendez compte, monsieur le journaliste, après cet examen de conformité, les listes sont encore provisoires, avant de devenir définitives. Donc, il y a l'examen de conformité, les listes provisoires, les recours, jusqu'au caractère définitif. Et donc, la chance et l'occasion est donc donnée à tout le monde de se mettre en ordre de bataille. Et c'est la philosophie profonde du législateur. Il a voulu que tout le monde puisse participer au même pied d'égalité à la course électorale. Et donc, je voulais dire que la CENI a péché. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, justement, tout le monde a pu faire corriger ces listes jusqu'à ce que les listes soient mises sur Internet.
Alors, j'ai tout à l'heure indiqué à Maître Kabenyela que dans le cas de l'UDPS, il y avait la circonscription de Moba où l'UDPS, sur le site de la CENI, il y a 6 candidats sur la liste pour 4 sièges. Et il a dit que l'UDPS était prêt à reconnaître ses erreurs et que cette liste pourrait être carrément déclassée. Est-ce que le PPRD serait prêt pour la même opération?
Je crois que... Si les listes provisoires sont écartées de cette manière par l'UDPS, ça n'engage que ce parti-là. Mais en tout cas, pour le PPRD, étant donné que ces listes sont provisoires, elles peuvent bénéficier encore des corrections possibles au niveau de la CENI. Et donc, si l'UDPS estime que ces listes-là peuvent être écartées, donc qu'elles ne participent pas aux élections dans cette circonscription, ça n'engage que l'UDPS.
Donc, en d'autres termes, l'UDPS pourrait également procéder à des corrections par rapport à ça.
Je crois que à ce stade, Prenons le cas de, particulièrement de l'UDPS, dans le procès en question. La CENI a reconnu ses erreurs. Puisque ce sont des erreurs, donc elles sont ouvertes à des corrections. Donc voilà.
Professeur Paul Gaspard Ngondanko, je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Prenons cette réaction pour vous.
Lambert Joseph Mwamba, je suis ingénieur de formation. La décision de la Cour suprême de justice n'est pas de nature à nous acheminer vers des élections apaisées que tous nous réclamons. Elle devait traiter ce dossier pour avoir plus de crédit, surtout dans le chef de l'opposition congolaise, qui a toujours estimé que la justice congolaise est un instrument au service du pouvoir en place. Et au lieu de penser à un complot, car la CENI ne devrait pas publier une liste avec des erreurs aussi flagrantes.
Réaction, professeur.
Ben, j'ai dit déjà tout à l'heure que la gestion du contentieux électoral, ou même préélectoral par la Cour suprême de justice, c'est vraiment une épine sous le dos de notre processus.
Avec quelles conséquences
que, ils vont se rattraper. Et cette décision est en effet préjudiciable à la régularité du processus électoral, dans ce sens que la Cour n'a pas abordé la question du fond, qui est quand même celle de la régularité des listes qui présentent un nombre de candidats supérieur au nombre de ceux à pouvoir. Cette question là doit tout de même être résolue au-delà de la question de forme de la recevabilité ou pas. Alors, qui va le faire? Je l'ai dit tout à l'heure, la Cour suprême peut publier la liste définitive en apportant des corrections au travail fait par la Cour, par la CENI. Ou alors, elle peut renvoyer à la CENI, qui doit alors, en ce moment-là, refaire la copie de son travail pour se conformer à la loi électorale. Parce que quelle est la conséquence si les choses restent en état? Parce que vous avez posé la question de la conséquence. C'est qu'on va violer l'article 22. Il y aura, je l'ai dit encore tout à l'heure, des listes qui vont avoir plus de candidats que le nombre de sièges à pourvoir. Mais qu'arrivera-t-il si cette liste-là passe, remporte le... parce que nous sommes dans ce cas-là, dans le scrutin à la représentation proportionnelle, si on attribue le premier siège au premier qui arrive en tête de la liste, le deuxième au second, ainsi de suite jusqu'au quatrième siège. Et le tout dernier, quel sera son rôle? On va lui attribuer quel siège? C'est ça le problème qui doit être résolu avant. Je pense que la gestion de la question de la régularité du processus électoral, tant par la CENI que par la Cour suprême de justice, est capitale pour avoir des électeurs pas seulement apaisés, parce que bon, on aime trop beaucoup de termes ici au Congo, mais simplement des élections régulières. C'est pas d'après les normes qui sont fixées. Et je pense que de ce point de vue-là, ce n'est pas encore trop tard, on peut se rattraper pour que toutes les listes qui tombent dans le cas soient écartées du processus. Hein, il faut respecter l'article 22. Mais je pense, puisque nous sommes toujours dans le cadre des conséquences, il faudrait effectivement, comme l'a dit Maître Kabengé, là, mettre en place la Cour constitutionnelle. Il est regrettable que la loi sur la Cour constitutionnelle qui a été transmise au président de la République depuis le mois de mai, n'ait pas encore été promulguée. On m'a fait entendre qu'on avait renvoyé ça à la Cour suprême pour la déclaration de conformité à la Constitution, mais la Cour suprême n'a que 30 jours d'après la Constitution. Et ces 30 jours sont largement dépassés. Parce qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que cette loi est entrée en vigueur, parce que tous les délais possibles ont déjà été épuisés. Mais au-delà de la question de la mise en place de la Cour constitutionnelle, c'est la question de l'homme. Si on met en place la Cour constitutionnelle avec les mêmes hommes, alors il faudrait alors tirer à reçu le contentieux électoral et le contentieux constitutionnel dans notre pays. Parce que qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter dans ce pays ce que moi j'appelle des arrêts sur commande politique. Bon, une officine politique qui saisit la Cour suprême et lui dit qu'il a volonté, dit voilà, je veux obtenir tel arrêt parce que je veux obtenir tel résultat politique. Ça, ce n'est pas une justice indépendante. Donc, il nous faut éviter ces genres d'arrêts, les arrêts sur commande politique, pour que nous puissions avoir une justice vraiment juste. Merci. Et indépendante. Et de ce point de vue-là, je pense que l'intervention de mon ami est tout à fait fondée et je partage son avis.
Merci. Merci, professeur. Maître Godard Aïkofo, je rappelle que vous êtes membre du collectif des avocats du PPRD. Quelles conséquences cette situation pourrait-elle avoir sur le processus électoral d'après vous?
Je crois que, parlant de l'arrêt lui-même, c'est un arrêt ordinaire pris par la Cour. La Cour a siégé de façon tout à fait ordinaire. Ce n'est pas une chambre spéciale, ce n'est pas une juridiction spéciale, c'est une matière donc ordinaire. Donc, je ne vois pas de conséquences outre mesure que cet arrêt pourrait avoir sauf le fait que cet arrêt crédibilise le processus électoral dans la mesure où il a permis, n'est-ce pas, de départager les partis qui étaient en liste dans une contestation, n'est-ce pas? Et donc, les conséquences néfastes, moi, j'en trouve pas. Si l'on prend la situation dans l'angle, sur l'angle tel qu'il s'est présente, n'est-ce pas? Les choses sont claires. Les choses sont claires. Il y a eu une demande formée devant la justice. La justice a répondu au demandeur. L'arrêt a été rendu. Il doit être exécuté. Bon, les conséquences néfastes, moi, je n'en trouve pas. Vraiment pas.
Maître Kabenyela Ilunga, le professeur Ngondankoy a dit que la gestion des contentieux en cette matière, la Cour suprême n'était pas la meilleure solution au pays. Est-ce votre avis également?
C'est notre avis, parce que nous appelons de tous nos voeux l'institution de la Cour constitutionnelle pour que nous puissions avoir des juges purement indépendants par rapport au pouvoir en place. Permettez-moi de revenir sur le qualificatif des listes provisoires. Ces listes sont dites provisoires parce que il y a d'abord la possibilité pour des personnes non retenues, des candidats non retenus, de figurer sur la liste. Deuxième hypothèse, c'est qu'il y a des gens qui peuvent figurer sur la liste alors qu'ils ne devraient pas y être. Il y a des listes qui ont été publiées alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc, vous voyez, tout cela, c'est cela qui fait dire des listes qui sont des listes provisoires. Pas problème de corriger. Lorsqu'une liste est trouvée irrécevable, pour rendre maintenant les listes définitives, on doit éjecter de la liste des listes définitives les listes à problème. Les listes qui devraient être dites irrécevables. Et nous avons demandé à la Cour suprême de justice de faire ce qu'aurait dû faire la CENI. Nous prenons la Cour suprême maintenant au défi, parce que le MLC a introduit son recours le 24.
En guise de conclusion, okay. Parce qu'il nous reste moins de
le MLC a introduit son recours le 24, alors qu'il y a déjà une jurisprudence constante de la Cour suprême de 6 qui dit qu'on peut appeler les partis en essence par voie de radio, de communication radiodiffusée. La Cour suprême, en ce jour-là, a demandé à la partie récurrente MLC de pouvoir notifier par écrit. Donc, c'est de manœuvre, comme l'avait dit le professeur, que chaque fois la Cour suprême veut se cacher dans le formalisme qui n'a rien à voir avec le fond, pour éviter le fond, parce que le fond incommode le pouvoir en place.
Maître Godard et Kofo, en guise de conclusion, cette situation n'arrangerait pas le PPRD?
Je crois que l'arrêt a été rendu. C'est la Cour suprême, la haute cour de notre pays. C'est une solution à qui nous devons beaucoup de respect, parce que c'est la seule qui, jusque-là, organise et traite les matières de ce genre. Et donc, je dirais que le PPRD considère que ces listes ont été régulières, et que si par après il y a eu des coquilles, des simples coquilles qui se sont glissées dans ces listes-là, sur ces listes-là, bon, la CENI qui a reconnu ses erreurs pourra simplement le corriger.
Donc pour vous, c'est de l'agitation pour rien?
Vraiment de l'agitation pour rien, parce que nous l'avons vécu dans la salle, le jour du procès. Les choses sont très simples. Une demande introduite, rejetée, voilà.
Et que la loi n'a pas été violée?
En aucun moment la loi n'a été violée.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, un mot en guise de conclusion.
Bon, en guise de conclusion, je dirais que l'arrêt de la Cour suprême est conforme à l'article 25 en la forme, en ce sens que la computation du délai fait répond bien aux préoccupations du législateur. Par contre, en ce qui concerne le fond du problème, c'est-à-dire le respect de l'article 22, je pense que la Cour a laissé là une matière non traitée, et il est urgent que, avant que la liste définitive ne soit publiée, que l'on puisse traiter de cette question-là. C'est-à-dire que les listes qui présentent un nombre de candidats au nombre de sièges à pouvoir soient écartées.
Merci, professeur. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Badianyama, Guy Matekelinkouté, Pelé Kipela et Bob Landou qui m'ont aidé à préparer cette émission. Présentation et coordination, Alain Irung. Au revoir.